Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début. Notre invitée, c'est la comédienne Marie Gilin. Elle est sur la scène du Théâtre de la Renaissance pour une comédie sur la tête des enfants avec Pascal Elbé. Olivier Menkemoun, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour tous.
Vous pouvez nous voir sur europe1.fr et vous pouvez voir que Jean-Luc et Laurent Mariotte ont le même fournisseur de t-shirts et de chemises. Oui. Vous êtes très très élégants les garçons.
On s'appelle avant toujours. Oui.
Bah, c'est pas ça, mais on nous a passé des consignes, on se dit maintenant. Philippe veut des danseuses, les vendellettes,
des pom-pom girls.
Voilà, c'est notre costume.
Et Benke, alors
non, je ne fais pas partie du groupe.
Non.
Simplement, t'es pas invité.
Jean-Luc Lemoine, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. And today, my sweet little doc, I don't know what you're going to talk, but I am already salivating.
Oh, I'm so glad to speak in English with you, dear Philippe. Because comme ça, we can speak tranquille. We let Anissa nous comprenne. I think she speaks English like a Spanish co. Oui, comme une vache espagnole.
Oui, j'ai compris.
Elle a dû apprendre l'anglais au Jean-Pierre Raffarin Institute. Ouais, parce que tu sens quand même qu'elle fait genre que tout va bien, comme quand on parlait du film qui a raflé tous les Oscars cette année.
Et ce film dont on parle, c'est Everything Everywhere All at Once, qui a eu 7
All at Once. On a tous fait la même école d'anglais.
Voilà. Il faut laisser Lisa Azuelos parler anglais.
Oui, il vaut mieux surtout partir sur des titres plus simples. Hein. Alors, je vous cache pas que j'étais inquiet quand on a demandé à Anissa d'annoncer la chanson Three Little Birds de Bob Marley. Tu sentais arriver l'accident, le GPS indiquait à 50 mètres un mur. Et finalement, on a pris une leçon.
Et je vous propose un petit peu de douceur avec les trois petits oiseaux de Bob Marley and the Wailers.
On a le droit de faire ça.
Oui, c'est bien,
hein, un refus d'obstacle comme ça, parce que si on commence à traduire tous les titres, j'ai hâte qu'on programme Né pour être vivant de Patrick Hernandez ou YMCA des gens du village. Alors, heureusement, en France, hein, les gens ne parlent pas bien la langue de Shakespeare. Et tant mieux, ça évite des dépressions. Parce que dans The Voice, la voix pour Anissa, quand un candidat échoue aux auditions, quand il est bien tricard et qu'aucun coach ne s'est retourné, est-ce que vous avez entendu la musique qu'ils mettent en fond sonore pour les raccompagner en coulisses?
Non.
Bravo. C'était un super moment. Je chante bien, c'était très généreux.
N'abandonne pas car tu as des amis. Autant envoyer la marche funèbre à une corde. Hein. Donc, comme on n'est pas très fort en anglais, j'ai regardé un programme bien français, voire franchouillard, le JT de 13h de TF1. Mardi, j'étais dessus. La motion de censure avait été évitée de justesse. Le pays s'embrasait. J'attendais de voir comment ils allaient traiter ça.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Actualité chargée ce mardi. On commence tout de suite avec les prévisions météo de Louis Baudin.
Bon, à la limite, on sait qu'en France, il n'y a pas plus important que la météo. Mais quand même, Marie-Sophie Lacaro l'a dit elle-même, il y avait quand même une actualité chargée. Donc j'avais hâte de découvrir ce qui allait enchaîner après les prévisions météo.
19 degrés, vous le voyez, à Marseille. Le printemps étant là, cela vous donne peut-être envie
de manifester, hein? Ah, c'est habilement amené. Ah, j'étais mauvaise langue. Je jouais sur la météo pour annoncer un printemps français, un vent de contestation populaire. Je me suis dit, c'est brillant, réécoutons ça.
Le printemps étant là, cela vous donne peut-être envie de sortir un peu plus et d'aller par exemple à la pêche à pied.
Non, finalement, c'était la pêche à pied. Franchement, quand tu ouvres ton journal par la pêche à pied, alors que les Français sont dans la rue, c'est que l'actualité n'est pas si chargée que ça. Non, mais les JT de 13h, c'est vraiment un monde à part. Une bulle qui fait du bien. Je ne vais pas vous mentir, sur les chaînes info, c'est la course au scoop. Ils ne savent plus où envoyer leurs reporters. Au 13h de TF1, ils sont moins débordés.
Et on arrive au reportage inattendu de ce journal quand on vient à votre rencontre en lançant une fléchette sur notre carte de France. Nos journalistes ne savent pas où ils vont se rendre, ni ce que vous allez leur raconter ou leur montrer.
Pardon, mais ça, c'est pas un reportage, c'est un week-end. Hein. Donc là, t'as une équipe de journalistes qui débarquent dans un village de Savoie. T'as l'impression qu'ils font rendez-vous en terre inconnue.
Dans une ruelle du village, nous sommes attirés par l'odeur.
Ah, ça, c'est les gens dans les petits villages, ils se lavent pas. Donc après, évidemment, ça sent fort. Hein. Moi, j'étais impatient. Mais non, c'était pas ça. Mais moi, j'étais impatient de savoir ce que les journalistes allaient bien pouvoir apprendre auprès des locaux. Eh bien, ils ont été boire un coup avec une dame. Et ils ont eu de la chance. Parce que, je vous le rappelle, c'est le hasard tout ça. Mais elle avait une histoire palpitante à raconter.
Pour faire sécher mes chaussures, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes chaussures dans le four.
Non, non.
Puis le matin, ben, j'ai toujours pas trouvé mes chaussures. Et quand je suis arrivée à 11h30, ben, oui, j'ai compris Les chaussures, elles avaient grillé dans le fond.
Merci à tous pour votre accueil.
Voilà, 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 voilà. Après un reportage pareil, quand tu ramènes tes frais kilométriques à la compta, tu serres un peu les fesses. Hein. Mais je vous rappelle, Philippe, que le JT TF1 fait 4,7 millions de téléspectateurs tous les jours. Alors vive le journalisme au hasard.
Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Quel régal une fois encore à lundi et avant lundi, 16h-18h avec Stéphane Bern sur Europe 1, historiquement vôtre. Quel bonheur. Laurent Mariotte.
Le Philippe Vandel.
Votre indispensable du jour, parce qu'on est vendredi.
Absolument, on va parler des superstitions en cuisine, parce que vous recevez Marie Gillin, il est beaucoup question de superstitions dans sa pièce de théâtre.
Et avec Olivier Nkemoun, ce sera quoi ?
Eh ben, j'ai lancé une fléchette au hasard sur une affiche. Ouais. Je suis tombé sur 65, la Terre d'avant, avec Adam Driver, qui est un nanar spatial et jurassique. C'est tellement raté qu'il faut vraiment que je vous en parle.
Ah, j'adore.
Vraiment, vraiment que je vous en parle.
On a trop envie de voir ça.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel avec votre invité Culture jusqu'à 11h.
Bonjour Marie Gillin.
Bonjour.
Comédienne découverte dans Mon Perso Héros avec Depardieu, vous n'aviez que 16 ans, c'était votre première nomination au César. Je vais encore citer L'Appât de Bertrand Tavernier, Toutes nos envies de Philippe Lioret, tiré du roman d'Emmanuel Carrère. Vous avez tourné Clapiche, les frères Taviani, Torrescola, Emmanuel Mouret, Régis Varnier. Je ne vais pas tout citer, excusez du peu. Plus récemment, dans Les Choses Simples avec Lambert Wilson et Grégory Gadebois, film toujours à l'affiche, au théâtre, le Molière que vous avez reçu pour la Vénus à la fourrure. Et justement, votre actualité, c'est sur scène. C'est une pièce signée Salomé Lelouch. Ça s'appelle Sur la tête des enfants. C'est avec Pascal Elbé. C'est au théâtre de la Renaissance. Salomé Lelouch dit que c'est un vaudeville à l'envers. Qu'est-ce à dire ?
Dans le vaudeville classique, les gens se trompent et ils essayent de dissimuler cette tromperie. Alors que dans ce vaudeville-ci, c'est un couple qui a une petite brèche pour se tromper, mais en fait, ils ne vont pas y arriver.
Qui est Juliette et que lui arrive-t-il ? Juliette, c'est votre personnage, ou plutôt, que ne lui arrive-t-il pas ?
Juliette, donc dénommée Ju, parce qu'elle ouais. n'aime pas qu'on l'appelle Julie, est en couple avec Alban, et ils se sont, dans un moment un peu de délire, ils se sont jurés fidélité sur la tête des enfants pendant 10 ans. Donc c'est une sorte de pacte un peu sacré et la pièce commence 10 ans après. Et donc c'est le fameux petit moment qui est le vide juridique où ils ont une petite semaine pour éventuellement se tromper. Et donc ils vont mettre un peu tout en œuvre pour s'accorder ce petit vide juridique. Sauf que ça va évidemment pas se passer comme prévu. Et évidemment au départ c'est un couple qui va très bien et qui n'a pas vraiment forcément l'intention de se tromper. Qui ne prônent pas non plus la fidélité absolue, mais ils vont vraiment être dans la merde. Quoi.
Alors il y a une bande-annonce, on va en profiter, c'est un teaser, on l'écoute.
Vendredi, ça fera 10 ans qu'on s'est juré fidélité avec Ju.
Bon, vous pouvez peut-être le tromper, mais non, je vais pas le trahir. Ben non, puisque vendredi s'arrête ma promesse de fidélité.
Faut pas croire, hein, 10 ans, c'est long.
Je me jure que tu pars à Lille vendredi prochain, sur la tête des enfants.
Alors figure-toi, on va à Lille.
Allô ? Jess me demande de l'accompagner la semaine prochaine, 3 jours au Maroc.
Elle t'a dit tout ça, alors.
Cet étrange serment.
Mais il a fait le coup du congrès !
Non. Quand je jure sur la tête des enfants, je respecte ma parole. Toi, tu lui as dit quoi, toi ?
Bah, que j'allais voir une amie, qui va pas bien.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Je suis pas partie.
Pourquoi ?
Je suis pas partie.
Mon serment, des serments.
Eh ben, apparemment, on était tous les deux avec quelqu'un hier.
Moi, j'ai rien fait.
Moi non plus.
Mais la Ju, elle est toujours amoureuse de son mari.
Oui, elle est
toujours
tout
une affaire
fait.
Qui roule.
C'est une affaire qui roule totalement, oui.
Et on ne dira pas comment ça finit à la fin, hein, si ça roule dans le mur ou si ça roule plus, je ne dirai rien. C'est une pièce très moderne, rien que le titre sur la tête des enfants au pluriel, ils n'en ont qu'un chacun, c'est une famille recomposée.
Oui.
Là aussi, ce n'est pas du vaudeville classique.
Oui, non, c'est ça, ils jurent sur la tête des enfants et ce que dit Alban, c'est leur façon à eux d'être une famille. Après, voilà, c'est une pièce sur la superstition. Ils se sont prêtés serment et puis ils ne peuvent plus revenir en arrière. Donc il y a une forme de folie aussi dans cette pièce. C'est jusqu'où on peut aller quand on prête un serment et voilà, pour ne pas sortir de ce cadre-là.
Je vais parler de la superstition après. Juste au passage, j'ai découvert que vous aviez une famille recomposée vous-même.
Ouais.
Ça m'a beaucoup fait... C'est une famille joyeuse.
Ah oui, c'est vraiment... nous, c'est un peu la famille recomposée comme dans les comédies anglo-saxonnes. Il y a les ex, les ex-ex-ex, les ex-ex-ex, et on s'entend toutes très bien. Les nouveaux enfants, les nouveaux arrivants, les nouvelles femmes, les nouveaux mecs. On passe Noël ensemble, on part au ski.
Et vous êtes combien à Noël ?
Ah, bah, la dernière soirée raclette, on était au moins 20. Hein.
Waouh, avec tout ça de la même famille.
Oui, voilà, mais c'est pas non plus le monde des bisounours. Hein. Oui. Il y a quand même eu des engueulades, des mises au point, mais il y a quand même beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour. Ouais.
Vous savez quoi ? Vous devriez faire une série avec ça.
Mais oui, ça, je sais, j'y pense très
au
souvent.
Au quotidien, comme Roman Boringer.
Oui, bah c'était trop
avec
bien.
Avec Philippe
série.
Et leur sépartement. Ouais. Ça serait extraordinaire de voir toute cette famille-là. Vous restez avec nous, Marie Gillin. On continue de parler de cette pièce sur la tête des enfants et on va parler superstition. À tout de suite.
Sur la tête des enfants, c'est la pièce à voir au Théâtre de la Renaissance en ce moment avec Pascal Elbé et Marie Gillin, qui est votre invitée jusqu'à 11h, Philippe Vandel.
Pièce signée Salomé Lelouch, c'est du vaudeville, c'est un anti-vaudeville ou un vaudeville à l'envers, comme dit Salomé Lelouch. Une pièce que n'aurait pas pu écrire Labiche ou Feydeau parce qu'il y a des applis de rencontre.
Bah, oui, bah, en même temps, moi, la quarantenaire... je suis jamais allée sur une appli dans la pièce et puis, puis bon voilà, j'ai ma copine qui m'inscrit sur Tinder et puis je rencontre un garçon quoi.
Ouais, un beau jeune homme, je sais pas s'il est beau, en tout cas il est jeune, il est plus jeune que vous, il s'appelle Kevin et ça donne lieu à des moments très drôles sur l'âge.
Qui est interprété par Nathan Martin, je le dis parce qu'on parle de lui alors.
Alors j'aime beaucoup ce passage que vous tombez des nues quand vous apprenez sa date de naissance, il est né quand ?
Il est né en juin 98.
Et alors... même, là, déjà, même là, vous faites la tête de la pièce.
Mais oui, il est né en juin 98, ce qui est donc presque pire que le fait qu'il est jeune. Parce que juin 98, c'est la Coupe du Monde. Oui, donc ouais. ça nous ramène à tellement longtemps.
Exactement. Et puis, alors quand même, il compte, Kevin, il dit quand même, il n'y a pas une si grande différence d'âge que ça. Il dit quand même, ça nous fait 15 ans d'écart et j'aime beaucoup ce que vous lui répondez.
Bah, je lui dis, pas tout à fait, si je rajoute les 5 ans que je m'étais enlevé, parce qu'elle aussi s'était retirée quelques années.
C'est tellement bien. Chacun a truandé.
Mais oui, et c'est ça qui est inattendu. Alors, on va pas trop dévoiler, mais c'est que finalement, les amants dans la pièce sont inattendus dans ce qu'ils sont. La maîtresse, elle a pas le stéréotype de la maîtresse. Et puis l'amant, il est inattendu aussi. C'est un jeune, mais un peu hypochondriaque, qui prend ses précautions, qui a peur des maladies. Donc, c'est drôle, quoi.
C'est une pièce sur l'adultère, on l'a dit, qui est un thème très traité au théâtre, surtout dans le théâtre pour faire rire. Et là, ça fait rire, mais c'est aussi une pièce sur la superstition.
Ouais.
Racontez comment ça vient dans cette histoire. Et après, je vous demanderai si vous êtes superstitieux, ce qui paraît qu'il n'y a pas plus superstitieux que les comédiens et comédiennes de théâtre.
Ça commence, donc, comme j'expliquais, ils se jurent sur la tête des enfants 10 ans de fidélité en visitant leur premier appartement, mais vraiment un peu éméché. Et puis en fait, ils rentrent dans ce système de pacte et Jules en particulier, mon personnage, est vraiment superstitieuse. Et donc finalement, c'est ça qui est drôle, c'est qu'au-delà du fait de se tromper, d'avoir envie de se tromper ou pas se tromper, il y a ce pacte à respecter. Et donc, finalement, quoi qu'ils fassent, à partir du moment où ils ont juré sur la tête des enfants, ils sont dans une espèce de couloir de galère où ils ne peuvent pas en sortir. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est que ça part de choses qui sont très légères, mais il y a aussi une situation à un moment qui est totalement dramatique, c'est une espèce de machine infernale dont ils n'arrivent pas à sortir.
Oui, parce qu'au début, c'est comme ça, on est dans la galéjade, et puis d'un coup, il y a une dimension dramatique que je ne vais pas raconter ici, et tout d'un coup, on a peur pour vous. Mais
elle est jusqu'où elle est prête à aller en tant que mère désespérée parce qu'elle a juré sur la tête des enfants. Donc c'est à la fois très drôle, c'est tragicomique.
Voilà. Et en même temps, on se dit elle est folle et finalement pas tant que ça. Et c'est quoi vos superstitions à vous, sentez que vous en ayez ?
Moi, j'ai pas beaucoup de superstitions. C'est plutôt les rituels au théâtre. J'aime bien arriver un peu avant, j'aime bien avoir un petit rituel, j'allume ma bougie, j'ai mon petit bol tibétain, j'ai mon petit plaid, enfin comme une vieille mamie quoi.
Ouais.
J'ai ma petite tisane gingembre citron, enfin ma béroca quand je suis fatiguée, enfin, une petite vieille quoi.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est la vitamine C.
C'est la vitamine
D'accord.
C, béroca.
Moi, je ne connaissais pas du tout.
Ouais, bon, non, voilà.
Peut-être parce que je ne suis jamais fatiguée. Et les superstitions, vous êtes belge ?
Ouais.
C'est les mêmes en France. Est-ce que vous avez des superstitions belges qui ne sont pas les mêmes qu'en France ? Non. Vous avez le droit de dire non, hein ?
Non, moi, je ne suis pas tellement superstitieuse, mais c'est vrai que par principe, je ne vais pas passer sous une échelle, par exemple, mais c'est des trucs à la con, mais ça ne va pas au-delà de ça. Je n'ai pas de toc de superstition, non.
On est content de vous l'entendre dire. Vous avez eu beaucoup de récompenses et de nominations. 4 nominations au César, une au Molière, prix Romy Schneider, Ouse d'or du Festival de Berlin pour L'Appât, Molière de la meilleure comédienne pour Vénus à la fourrure. Vous préférez quoi ? Une récompense ou un film qui fait 10 millions d'entrées ?
Presque ni l'un ni l'autre. Moi, ce que je préfère, c'est quand on est dans une aventure artistique et humaine qui est extraordinaire et qu'on se dit tous les jours quelle joie, quelle chance de faire ce métier. Et quand ce projet, ce film ou cette pièce rencontre un public, ça c'est génial, voilà.
Alors, aventure humaine, les choses simples, Lambert Wilson, Grégory Gadebois étaient venus nous en parler, vous êtes dans le film, vous savez que le film est encore à l'affiche.
Mais vous me l'avez appris ce matin. Et
alors, on a fait des recherches. On peut voir aujourd'hui les choses simples à Châtillon à 15h, à Livry-Gargan à 16h et à Clichy à 20h30. Et je suis très heureux de donner ces dates parce que le cinéma, c'est pas seulement la semaine de la sortie à Paris et dans les grandes villes, c'est toute l'année en France. Vous restez avec nous, Marie-Gilin ?
Tout à fait.
On va parler de musique. Non, on va parler de cinéma. Avec, paraît-il, vous n'êtes pas dedans, le film le plus mauvais qu'Olivier Benkemoun n'ait jamais vu. Mais je vous jure que c'est vrai.
Avec Adam Driver en plus.
Oui, Culture Média continue sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et son invité Marie-Gilin.
Marie-Gilin à l'affiche de cette pièce sur la tête des enfants, pièce signée Salomé Lelouch avec Pascal Elbé. Je citais tout à l'heure vos récompenses. Je n'oublie pas que vous avez eu le prix de la meilleure interprétation féminine au festival de La Rochelle, c'était en 2021, pour À la folie, film sur les violences conjugales d'André Abescon et Éric Métayer. Le César, anecdote assez incroyable. Vous vous souvenez évidemment quand vous aviez été nommé au César pour le film L'Appât. Vous étiez allé au César avec une robe. Comment on peut qualifier la robe que vous aviez ce soir-là ?
Bah, elle était légèrement trop courte, quoi.
Voilà.
C'est-à-dire que c'était quand j'étais debout, elle tenait encore. Il y avait encore un petit bout de tissu, mais assise, bon là, c'était carrément pas possible. Voilà. Donc j'avais mis mon manteau sur mes genoux.
Mais ce qui m'amuse dans l'anecdote, c'est la réaction de son papa, parce qu'évidemment, son papa regardait l'émission, il regardait la soirée.
Ah bah, il était là carrément.
Ah, il était là, il était avec vous.
Oui, ils étaient là, mes parents, et donc je crois qu'il était plus inquiet que je sois obligée de monter sur scène pour avoir le César, parce qu'on allait voir que ma jupe était vraiment très courte. Que la joie éventuelle que sa fille ait un prix.
Donc il se dit pourvu que ce soit pas elle.
Oui, oui.
Pourvu que ce soit pas elle. Qui l'avait eu cette fois-là ?
C'était Géraldine Pellas pour La neige et le feu de Claude Pinoteau, je crois.
Voilà.
Ouais, voilà.
Et on se souvient plus du tout comment elle est habillée. Olivier Benkemoun ?
Pas de souvenir.
Non, je parlais pas de ça. Olivier, aucun risque de récompense pour le film dont vous allez nous parler.
On sait pas. Ah. Vous connaissez les Razzie Awards ?
Oui, c'est les pires films.
Ça pourrait.
C'est le pire film à Razzie
Awards. Ouais.
Ah, j'adore.
Donc, ça s'appelle 65, La Terre d'Avant. Et c'est avec Adam Driver, quand même.
C'est un bon comédien.
C'est un génie. Mais là-dedans, il est génial. Mais bon, alors disons que c'est un film tellement raté que ça mérite d'y aller. Alors, c'est un classique. Ou au mieux, on peut créer une catégorie spéciale, nanar spatial et jurassique,
ouais.
De la science-fiction jurassique. Faut être honnête, faut dire ce qui vous attend. Hein. Ce qui vous attend, c'est un mix inattendu et improbable. Vous prenez Star Trek et la série Perdue dans l'espace. Vous prenez Jurassic World, vous prenez La Route. Je ne sais pas si vous vous souvenez de La Route, c'est un homme et un enfant seul dans un monde post-apocalyptique.
Oui.
Vous mélangez tout. Mais bien fort, hein. Toutes ces idées, vous mangez très 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 fort dans tous les sens et vous obtenez le scénario de 65, La Terre d'Avant.
Lieu inconnu. Vol 373, ici le commandant Mills. Mon vaisseau a été touché par un astéroïde non répertorié.
Le commandant Mills, c'est le pilote d'un vaisseau spatial qui doit emmener quelque part des voyageurs cryogénéisés. Conservé dans des frigos. Bref, mais Mills vient de se manger une pluie de météorites et va devoir atterrir d'urgence sur une planète inconnue après une chute et une décomposition de son appareil à toute vitesse. J'aime bien les sirènes.
Nous aussi.
Envoyez des secours.
Envoyez les secours. Bilan carbone pas terrible, bilan des courses. Tous les frigos sont explosés sauf un. Et encore, et en sort une petite fille vivante. Ça, c'est pour la partie perdue dans l'espace. Évidemment, la planète est hostile. Et c'est là que ça devient fou. Par qui est-elle habitée, la planète ? Par des dinosaures.
Évidemment.
Et des T-Rex. Wow. Et des bestioles d'il y a 65 millions d'années. D'où le titre. 65. La Terre d'avant. Et la pluie de météorites qui s'est mangée un peu plus tôt, le commandant Mills, en réalité, c'est l'apéro avant le gros caillou qui est tombé sur la Terre et qui a fait disparaître tous les dinos. Vous êtes au courant de cette histoire ?
Bien sûr.
Bon. Dès qu'il a compris ça, Mills et la petite fille vont partir à l'aventure pour retrouver une navette de secours qui est quelque part... dans un autre endroit de la forêt où ils sont perdus.
Ah,
et il va leur arriver mille trucs, mais surtout, ils vont devoir échapper à des dinos qui ont les crocs.
Vous êtes discret.
Discret.
Mais...
Voilà, c'est la façon d'être discret.
Mais attends, juste un mot, ils ont des scaphandres où on peut marcher sur cette planète.
Ah non, ils marchent, ils courent.
Vous n'avez pas compris que c'était la Terre. Ah, qui sont revenus 65 millions d'années avant.
C'est extraordinaire.
Voilà. Mais c'est du 36e degré ou c'est premier degré hyper sérieux?
C'est total. Il n'y a pas d'humour.
Ah, il n'y a pas d'humour.
Avec le fond droit, comment
il n'y a pas d'humour. Laissez-moi continuer.
Oui.
Donc,
lui non plus n'a pas d'humour.
Il y a des dinos de toutes les tailles, de toutes les formes, qui résistent même aux fusils laser. Alors, il y a de l'aventure. Oh là là, il y a des grottes, il y a de la spéléo, il y a des baies empoisonnées, il y a des astéroïdes qui tombent ou encore des dinos, des petits, des gros, bref, etc. Je pense que c'est là que les scénaristes se sont dit « Hey les gars, on fait un break, il y a trop, simplifions. La petite fille, on va la faire parler une langue que personne ne comprend. Comme ça, on va éviter d'écrire des dialogues. »
Ah non, il y a ça aussi.
Il faut simplifier, on simplifie à mort. Donc passons juste à l'attaque des dinos suivantes pour terminer l'histoire.
« Toi et moi, on rentre à la maison. »
Maison.
E.T. Oh non. Maison.
Ah,
maison.
Ah, voilà,
ça, c'est la ref.
Ah,
et il y a beaucoup de références.
En fait.
Il y a beaucoup de références, d'idées pompées. Mais je vous préviens, dans un souci de transparence et d'honnêteté, il n'y a, encore une fois, aucun humour. Et il n'y a pas une once d'humour là-dedans. Et c'est là que c'est exceptionnel, parce que la salle se marre. C'est là le truc génial, c'est ça qu'ils ont réussi. Il y a des barres de rire de gênance absolue parce que c'est tellement énorme. Tu te dis, c'est pas possible que les gars aient écrit ça, c'est pas possible. Les dinos, le crash de la navette, la petite fille qui parle pas, retour vers le passé, 65 millions d'années avant. Enfin, tout est à côté de la plaque. Même les effets spéciaux, je trouve des météorites. Et puis Adam Driver qui est génial dans Annette, l'opéra rock de Léos Carax. Mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Et il est génial, il est sérieux, il tient super bien le fusil, il tue super bien les dinos. Heureusement, ça dure que 1h30. À voir quand même, à voir pour bien rigoler, pour le kiff d'un nanar au budget de 90 millions de dollars.
Ah oui, quand même.
Ah dis donc, 90 millions.
Vous n'avez pas entendu, maison, Paris.
J'ai entendu, je vais donner un chiffre pour les gens qui ne connaissent pas le cinéma, 90 millions de dollars, Astérix qui est une super production, c'est 65 millions.
Ouais. Oui, mais pour un film américain, 80 millions de dollars, c'est rien.
90,
si.
Ouais, c'est un mini blockbuster.
Oui, c'est un mini.
C'est un mini blockbuster. Je pense qu'ils n'ont pas fait toute la partie qui coûte autant d'argent dans un film, c'est-à-dire la promo. Ils ont arrêté de faire la promo. Alors, ils se sont dit, on arrête, on ne fait pas, ça ne sert à rien. Pour dire la vérité, ils ne l'ont même pas montré à la presse. Donc ça veut dire que j'ai payé pour aller voir ce
mais
film.
Mais en vrai, est-ce que c'est pas...
J'ai payé de l'argent pour aller voir ce film.
Est-ce que c'est pas extrêmement tentant? Est-ce que ça donne pas tellement envie d'aller voir ce film?
J'ai bien envie de me taper une barre de rire là en ce moment, donc, donc pourquoi pas.
Moi aussi. Culture Média continue, vous restez avec nous Marie Gilin, et on va parler gastronomie avec Laurent Mariotte, ça ne peut pas vous déplaire.
Culture Média sur Europe 1, sur la tête des enfants, c'est la pièce de théâtre qui se joue au Théâtre de la Renaissance avec Pascal Elbé et votre invité Philippe Vandel, Marie Gilin.
Marie Gilin, sur la tête des enfants, c'est comme une espèce de promesse. Vous tenez toujours vos promesses?
Oui, en tout cas, je suis plutôt... Enfin, je suis une très très mauvaise menteuse, donc à partir du moment où je...
Alors, vous vous souvenez ce que vous êtes promis pour 2015?
Oh merde, oui, bon, alors je ne tiens pas du tout mes promesses. Je n'ai pas la notion du temps, disons.
Femina.fr, c'était début d'année, le 4 janvier 2015. Qu'est-ce que vous êtes promis pour 2015? J'aimerais prendre des cours de cuisine.
Raté.
Voilà, c'est ça ma question. Et vous dites, j'adore tellement la bonne bouffe que j'ai tendance à me prendre pour un jury de Top Chef avec tout le jargon. Mais il va bien falloir que je finisse par me confronter à la réalité des fourneaux au lieu de juger.
Là, j'ai acheté deux nouvelles casseroles, donc c'est un bon début.
Ah, bah si, bah, ça commence par
mais
ça.
Oui, oui. Ouais, un wok, ouais. Je veux dire, voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous cuisinez?
Non, moi, je suis une cuisinière du dimanche, en fait. C'est-à-dire que quand je suis à Paris la semaine, moi, la gestion de la bouffe avec les enfants, franchement, c'est une tannée. Non, moi, j'aime beaucoup les légumes oubliés. Voilà, j'aime beaucoup les soupes de butternut, tout ce qui est autour du butternut. Vraiment, c'est très, très passionnant ce que je raconte.
Bah non, c'était pour savoir. Laurent Mariotte, bonjour.
Mais bonjour, mais bienvenue au club. C'est très bien, les légumes oubliés. Mais... On a bien fait de les retrouver, justement, parce qu'ils font du bien. Et là, on rentre dans les légumes verts, les légumes de printemps. Donc, on a de beaux choix, oui.
Référence à la pièce sur la tête des enfants, parce qu'on parle de superstitions. Vous allez nous parler des superstitions qui surgissent quand on est à table.
Exactement, parce que Marie, dans votre pièce... Avec Pascal Elbé, vous jouez un couple très très superstitieux. Et on sait que le théâtre d'ailleurs est rempli de conventions. Il ne faut pas porter de verre. On se dit merde et pas bonne chance avant de démarrer une pièce, par exemple. Mais c'est vrai que les superstitions s'invitent aussi à table. Par exemple, on ne retourne jamais le pain parce que ça porte malheur.
Bien sûr.
Évidemment. Vous savez pourquoi ça?
Évidemment, moi je
le sais. Le pain du bourreau.
Ouais, le pain du bourreau, exactement. On réservait un pain au bourreau avant les exécutions. l'émotion. Et pour ne pas se tromper, pour ne pas l'oublier, on le retournait. Mmh. Mais surtout, on le laissait retourner pour que personne ne le touche. Parce que de toucher le pain retourné pour le bourreau, ça portait malheur. Voilà, ça c'est une des premières superstitions qu'on continue, je trouve, vraiment à...
Ouais. Quand il est là, on le remet droit.
Oui, exactement.
Alors moi non, mais il y a beaucoup de gens qui refusent de se passer le sel à table.
Oui, le sel aussi, il ne faut pas la poser, j'ai rien compris. Moi.
Exactement. Alors là, il faut retourner à la Rome antique pour comprendre l'histoire du sel. C'est une partie des revenus des légionnaires romains qui étaient versés en sel, d'où le mot de salaire en fait. Et c'est un aliment tellement précieux à l'époque qu'il faut éviter de le renverser. D'où le fait qu'on évite de le passer à table. Hein. Parce que si je vous le passe et que l'un des deux le renverse, on ne saura même pas qui l'aura renversé. Et comme c'était vraiment considéré comme une denrée très précieuse à l'époque, on faisait très attention, donc on le posait et l'autre le récupérait à la main.
Voilà, alors vous avez fait des recherches et vous avez trouvé des superstitions dans d'autres pays.
Oui, alors au Japon, il faut surtout ne pas s'aviser de planter ses baguettes dans un bol de riz. Parce que c'est comme les baguettes bien droites, vous savez, dans le bol de riz. C'est comme ça qu'on le présente, en fait, pour les funérailles. C'est un rite bouddhiste et c'est une offrande, en fait, quand on met les deux baguettes bien droites. Donc, on ne fait pas ça du tout quand on se met à table ou quand on commande des sushis, par exemple, avec le petit bol de riz. Hein, surtout pas. Plus joyeux, en Italie, on mange des lentilles le premier jour de l'année parce que c'est un gage de prospérité. Et on fait ça aussi en France. C'est quelque chose
qu'on... Début décembre, le 4 décembre, on plante du blé et des lentilles, dans le sud de la France. Beaucoup,
voilà, mais on consomme des lentilles. Le premier jour de l'année, le 1er janvier, c'est un gage de prospérité. C'est comme faire sauter des crêpes avec un louis d'or dans la main, ce que vous faites, Olivier, régulièrement.
J'ai pas vu un louis d'or de ma vie.
Non plus, je crois que j'en ai jamais vu de ma vie. Non, c'est vrai.
Votre grand-mère, vous en a pas donné un ?
Jamais, non.
On avait beaucoup de louis d'or dans les familles autrefois.
Chez les Mariottes.
En Chine, pour le nouvel an lunaire, on mange du poisson dans tous les foyers, ce qui garantit là aussi la fortune de la famille, alors, donc voilà, ça c'est encore une autre superstition.
Quoi d'autre? Alors, il en a même en République tchèque.
Oui, vous voulez que je la raconte, celle-là?
Si vous en avez le temps, je suis pour.
C'est l'histoire d'une pomme coupée en deux. Vous la coupez en deux. Quand le trognon ressemble à une étoile, ça porte bonheur. Quand ça ressemble à une croix, ça porte malheur. Voilà, ça c'est une superstition tchèque quand on coupe la pomme en deux. Mais il y a d'autres superstitions qui ont été démystifiées, comme celle autour de la tomate, par exemple. Jusqu'au 18e siècle, on ne consommait pas de tomate en France parce que la feuille était toxique de la tomate et on pensait que le fruit l'était aussi. Donc ça portait malheur vraiment de mettre des tomates à table. Et la tomate, maintenant, elle est comestible, bien entendu, mais c'est vrai que la feuille de la tomate est très toxique. Même chose aussi pour la pomme de terre. Alors ça, c'est marrant, la pomme de terre, c'est Parmentier qui a découvert ça lors de son séjour en captivité en Allemagne. Et on donnait ça aux animaux avec de l'eau bouillie, donc voilà, mais c'était très rassasiant quand même, et il s'est rendu compte que c'était vraiment bon pour nous, la pomme de terre. Donc quand il est revenu en France, il a voulu démocratiser la pomme de terre, et personne n'en voulait parce qu'on donnait ça au bétail. Il a eu une très bonne idée, c'est de faire planter des champs de pommes de terre du côté de la plaine des Sablons, entre Neuilly et le bois de Boulogne, et il faisait garder ces champs de pommes de terre le jour par des gardes royaux, et on se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette denrée précieuse qui est conservée, qui est comme ça, qui est gardée, et les gardes royaux partaient le soir, et les gens venaient récupérer les pommes de terre à la rapine, comme
quelle
on dit,
idée,
voilà, le soir. C'est un peu du marketing avant l'heure. Voilà.
Vous avez une recette avec ça?
Ah ben la pomme de terre, très simple, faisons-nous plaisir.
On la met dans de l'eau, on fait bouillir et c'est prêt.
Non, pas du tout, mais beaucoup de beurre. Gâteau à nat de pommes de terre. Alors ça, c'est très facile, Marie. Vous pouvez le faire pour vos enfants ce week-end. Des pommes de terre que vous coupez très finement en rondelles, du beurre fondu, et vous faites un gratin de pommes de terre comme ça dans un moule avec un papier sulfurisé dans le fond, et vous empilez vos pommes de terre avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre et du beurre fondu entre chaque couche, et vous mettez ça au four une heure à 180 degrés, et vous démoulez, vous avez un gâteau de pommes de terre à nat, c'est vraiment réconfortant, et c'est un vrai classique de la cuisine française.
Il faut mettre le beurre fondu, quoi.
Oui,
pas
fondu.
Les petits morceaux de beurre.
Non, non, beurre fondu, exactement, ce qu'on appelle du beurre clarifié. On enlève la petite couche qui se trouve à la surface, la caséine. Même. Le fait de le fondre et de retirer la petite écume à la surface, ça devient du beurre clarifié.
On le fait fondre et il y a des petites bulles en haut.
Oui, le petit machin. Le petit machin.
Le petit filet, on le laisse au fond aussi. Voilà.
Mais
j'ai voulu faire simple. C'est
super
pointu. Vous avez vraiment. Parce que dans l'interview, elle dit j'ai tous les termes pro. Oui. Le petit machin un peu blanc.
Avec le bidule dans le fond.
Ouais, tu sens tellement la pro. Demain, à la table des bons vivants.
On va cuisiner malin. On va revenir sur les paniers anti-inflation, mais pas ceux de la grande distribution. Ceux proposés par les commerçants, par les artisans qui s'y mettent, les poissonniers, les maraîchers, les épiciers ont de belles idées pour cuisiner pas cher. Et puis Daniel Auteuil sera notre invité. On va faire une belle ripaille avec son dernier album aussi. Voilà.
Une belle ripaille. Il est super son dernier album.
Il est top.
Merci beaucoup Laurent Mariotte. Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Marie Gillin à l'affiche de la pièce de théâtre sur la tête des enfants au Théâtre de la Renaissance
et
à Paris.
Et vous êtes toujours à l'affiche de ce film avec Grégory Gadebois et Lambert Wilson qui était venu nous en parler, qui s'appelle Les choses simples. Ouais. On peut toujours voir ce film. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Qu'est-ce que vous avez tourné qui va sortir?
Alors là, j'ai tourné dans le film d'Andrea Bescon et Éric Métayer qui s'appelle Quand tu seras grand, qui est un très 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 beau film avec Aïssa Maïga et Vincent McCain et une pléiade d'enfants et d'acteurs plus âgés qui sort en mai, qui est un très beau film. Et ensuite, j'ai des beaux projets de tournage. Je vais refaire un film avec Grégory Gadebois justement à la rentrée, qui est un très très beau film sur une relation entre un frère et une sœur, qui est réalisé par Hélène Médigue. Et ensuite, j'ai un projet de film avec Élie Chouraqui, qui est pour le mois de janvier en tournage.
Quel genre de rôle vous avez envie de jouer désormais?
En fait, c'est le fait là d'avoir joué un vrai rôle de comédie, ça me plaît énormément parce que j'adore profondément la comédie et ça faisait un petit temps que je n'en avais pas joué. Mais c'est toujours pareil. Alors là, quand on fait de la comédie, on a envie de retourner à des choses derrière plus denses, plus tourmentées, peut-être où il y a plus de fragilité, de failles.
J'ai retrouvé une interview ancienne de vous, c'était en novembre 2011. Vous disiez « Quand on est actrice, l'horloge bat encore plus vite » et vous avez changé d'avis en 2018. Vous dites « Plus on avance en âge, c'est très intéressant, plus on avance en âge, plus les rôles de femmes sont intéressants. » Et souvent, les comédiennes disent « Plus on avance en âge, moins on nous en propose et plus on est obligé de se les écrire soi-même. »
Oui, il n'y a pas forcément de recette. Bon, c'est certain que la réalité de la chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de rôles intéressants pour les femmes passées un certain âge que les rôles d'hommes. Hein.
C'est en train de changer.
C'est en train de changer, heureusement. Et c'est pour ça que moi, j'y crois totalement. Parce que je trouve que ça ne veut pas dire que la vie de femme n'est pas intéressante avant 40 ans. Il y a plein de choses passionnantes. Mais oui, je trouve que la densité de la vie, le rapport au temps qui passe, est quand même amène une davantage de profondeur et de complexité dans les relations humaines.
On est bien d'accord. Vous relisez vos anciennes interviews?
Non.
J'ai trouvé des merveilles en préparant cet entretien. J'y pense qu'il y a une scène, quand vous êtes avec le jeune Kevin dans la pièce sur la tête des enfants, vous vous arsouillez bien quand même.
Ah bah oui, finalement, elle y va, quoi. Hein.
Voilà. Et vous avez révélé... j'ai pas entendu ce qu'on m'a dit. On m'a parlé dans l'oreillette, mais j'ai pas entendu. J'ai entendu des sons un peu bizarres.
Non, allez-y, Philippe, continuez.
Bon,
vous êtes avec Marie-Gillin.
Je comprenais pas. J'étais avec Marie-Gillin. écoutez, je sais plus ce que je disais. Je suis complètement perdu. Et donc, non, parce que j'ai retrouvé des citations. Je me suis dit, peut-être qu'il faut qu'on rende l'antenne. Non, je vais faire ma citation. Vous vous souvenez du fantasme que vous avez raconté quand vous avez sauté sur une table ou pas?
Ah bah oui, je l'ai refait là justement.
Non.
Là, c'était la 50e de la tête des enfants. Et il y avait donc, c'était génial, c'était un dîner raclette. On avait fait une raclette et puis il y avait une grande table de ping-pong. Donc après, on a débarrassé tous les couverts. Et cette envie m'a repris. Je me suis dit, mais j'ai tellement envie de plonger sur cette table. Sauf que ça a été évidemment...
Attendez, je vais raconter ce que vous avez dit. Ah. Vous avez dit, mon fantasme, ça y est, j'ai réalisé mon fantasme. J'ai fait un plongeon sur une table pleine de verres, de cendriers, de bouteilles. Et j'ai tout renversé sur mon passage, j'étais ivre morte en pleine extase.
Mais voilà, sauf que là, la différence, j'étais moins ivre morte et il n'y avait plus rien sur la table. Et donc, c'était beaucoup moins amusant. Alors, on a essayé de mettre de l'eau et du produit de vaisselle pour glisser, mais ça a fait un peu comme l'effet d'une carpe qui s'arrête en plein vol. Quoi.
Marie Gillin, à l'affiche de cette pièce sur la tête des enfants avec Pascal Elbé, c'est signé Salomé Lelouch. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Nous, on se retrouve évidemment lundi à 9h. On sera avec l'animatrice Karine Tesson. On parlait de son émission qu'elle présente sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Ça s'appelle Nos Terres Gourmandes. C'est très intéressant aussi ce qui se passe sur les chaînes en région. Et puis l'acteur Neil Snyder pour un film centré sur le célèbre gang des Apaches. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez avec Bienfait pour vous. Le programme du jour est d'abord bonjour.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Alors aujourd'hui, on va ouvrir ce magazine en vous posant cette question. Comment se libérer de la culpabilité? Oui, c'est un sentiment qu'on peut tous ressentir, y compris quand on est enfant. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion négative, Julia?
Eh bien, je ne sais pas. Et vous savez ce que je vais faire?
Ouais.
Je vais écouter Bienfait pour vous.
Merci les filles, on vous retrouve dans un instant sur Europe 1. Et puis une triste nouvelle qui vient de nous parvenir de nos confrères de Pure Média, le décès de la comédienne Marion Gamme que vous suiviez dans Scène de ménage sur M6. On aura l'occasion d'y revenir évidemment dans Culture Média et dans le journal des médias avec vous, Philippe Vandel.
Merci Anissa, bon week-end. Merci Marie-Gilin, bon week-end. Bon week-end à l'écoute d'Europe 1, à lundi.